Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Nous parlons à présent du transport des bêtes, des animaux vivants à RDC. Vous savez, ce transport se fait souvent dans des conditions déplorables. Moutons, chèvres, poules, canards et autres sont entassés pêle-mêle dans des camions avec d'autres marchandises et également les voyageurs. Et ces bêtes se déplacent d'une ville à une autre sans contrôle vétérinaire. Les bêtes sont stressées et avec tous les risques, voyagent avec tous les risques de transmettre certaines maladies aux hommes, aux humains. Alors, quelles sont les normes à respecter lorsqu'on veut transporter des bêtes d'une ville, d'une place à une autre? Docteur Pierre Vereg est médecin vétérinaire. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, quelles sont les normes des transports des animaux vivants?
Mais écoutez, d'abord, il faut préciser de quels animaux vivants il s'agit, parce qu'en RDC en particulier, on voit dans des transports en commun aussi bien des animaux domestiques que des animaux sauvages. Il n'est pas exclu de voir un crocodile à bord d'un avion. On peut être amené aussi à voir des lions ou des bêtes fauves être transportés en avion. Sur les bateaux qui descendent de l'intérieur du pays, il y a toutes sortes de choses aussi, et ça va depuis le singe vivant jusque la tortue, des oiseaux de toutes sortes, etc.
Oui.
Et puis, bien sûr, il y a le transport des animaux domestiques en tant que tel. Donc je dirais que, bien sûr, il y a l'aspect transmission éventuelle de maladies de l'animal à l'humain, et parfois inversement aussi,
oui.
Mais il y a surtout les conditions de base de transport et de qualité de transport des animaux. En ce sens qu'il faut bien considérer que l'animal est bien sûr un être vivant, qui est doué de capacité de souffrir, et donc il faut commencer par évaluer les conditions de transport en minimalisant au maximum l'inconfort de l'animal. Et ça, en Europe, les règles deviennent de plus en plus strictes sur les qualités de transport des animaux. Ça va depuis le modèle de la cage, par exemple, ou le type de camion utilisé,
oui,
jusqu'au nombre d'heures de déplacement admissibles, limitées par des phases de repos qui permettent à l'animal non seulement de s'abreuver, de se nourrir et de se reposer musculairement parlant, parce que imaginez un petit peu un passager humain qui voyagerait de Kinshasa à Matadi debout dans l'autobus, arrive à Matadi, il sera complètement épuisé. Il faut faire un petit peu des comparaisons et imaginer que les chèvres, canards et poules qui voyagent au-dessus des camions sont dans des conditions de stress physique extrêmement importantes, de stress physique bien sûr, mais aussi on oublie certainement de leur donner à boire et à manger, donc il y a une faiblesse qui s'installe, et qui dit faiblesse dit sensibilité aux maladies, et ces animaux peuvent finalement en arriver à mourir de stress si on n'a pas pris très au sérieux les conditions de voyage.
Alors, vous avez dit tout à l'heure au début de cette émission, est-ce qu'il y a déjà eu un cas où on a vu un crocodile voyager dans un avion?
L'exemple que je crois qu'encore beaucoup de gens ont en mémoire, c'est cet avion qui s'est écrasé à l'aéroport de Kikwit. À bord, c'était un petit porteur, je crois. Il y avait un crocodile qui était plus ou moins ficelé. Il est arrivé à se délier. Ça a provoqué la panique dans l'avion. Tous les passagers ont fui vers l'avant de l'avion pour s'éloigner du crocodile. L'appareil était en phase d'atterrissage. Il a été déséquilibré et il s'est écrasé. Là, évidemment, se pose le problème de savoir qui est responsable, comment se fait-il que cet animal a pu monter à bord de l'avion, pourquoi n'a-t-on pas vérifié qu'il était ficelé correctement, et puis est-ce que, en valeur absolue, il est indiqué de faire voyager un animal qui peut être dangereux au milieu des passagers.
Mais comment l'affaire s'est terminée? On voudrait en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a eu des passagers qui ont eu une jambe soit arrachée par l'animal ou comment on l'a
mis? Non. Il n'y a même pas eu de. Je pense que les passagers sont morts dans le crash de l'avion, mais ils n'ont pas été blessés par le crocodile lui-même, qui était probablement dans un état de délabrement, je dirais, suite à sa capture et le fait qu'il ait été ficelé, il était probablement très incapable de se montrer réellement dangereux.
Oui, oui, d'accord. Désolé pour cet incident malheureux qui a causé d'ailleurs le crash de l'avion. Alors vous étiez en train de parler des normes à respecter. Donc avant de transporter les animaux, il faudrait qu'il y ait d'abord un contrôle vétérinaire avant le transport et les déplacements des animaux.
Mais c'est-à-dire que dans des conditions de structure administrative bien établie, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait un vétérinaire qui supervise le chargement du moindre camion qui va transporter du bétail, par exemple. Il y a des normes qui doivent être connues par les responsables des transports, par les camionneurs, comme tout un chacun est censé connaître la loi, ils doivent respecter la loi. S'il y a un contrôle en cours de route et qu'on s'aperçoit que les animaux ont voyagé pendant plus de 8 heures sans moment de repos, il y a des amendes et il y a des interventions administratives coercitives qui interviennent.
Oui. Alors vous avez
bon, évidemment, en RDC, le problème est tout à fait différent. D'abord, le règlement, à mon sens, est très peu connu de la part des personnes qui transportent des animaux. Il n'y a pas de transport professionnel d'animaux, donc c'est plutôt des opportunités, des gens qui se déplacent d'une région à l'autre, qui transportent du petit bétail, par exemple, pour la capitale. Et tout ça se fait sans aucun règlement, sans aucun contrôle. Et c'est ce qui fait que nous avons eu, l'année passée, cette épidémie de peste caprine qui s'est répandue jusqu'à Kinshasa, justement par le fait que des animaux malades ou en incubation étaient transportés sans qu'il y ait de contrôle.
Voilà, sans qu'il y ait de contrôle. Et vous avez dit qu'il faut des cages spéciales pour mettre les animaux sauvages, par exemple.
Ah ben, il est évident que vous n'allez pas transporter une chèvre comme vous allez transporter un lion. La chèvre est relativement inoffensive pour son entourage immédiat. Le lion dans un camion ou dans un avion pourrait poser beaucoup plus de problèmes. Moi, je suis plutôt spécialisé en transport de chevaux sur des vols moyens et longs courriers. Ce sont des animaux qui ne sont pas dangereux parce qu'ils n'ont pas l'ombre d'une agressivité, mais ce sont des animaux qui ont une grosse masse, ça pèse 500 kilos, ils ont une force absolument démentielle, et ils peuvent, dans des moments de panique, causer beaucoup de dégâts autour d'eux. Donc, la logistique entourant le transport de ces animaux doit être bien comprise et suivi scrupuleusement de façon à se mettre à l'abri des moindres incidents.
Voilà, on voit souvent certains camions en provenance du Bandundu ou de la province du Bas-Congo, c'est rempli de marchandises, pêle-mêle, il y a des animaux, il y a même des voyageurs qui sont au-dessus avec avec des chèvres perchées au-dessus du camion. Tout ça, c'est des conditions qui sont peu recommandables. Alors, comment cela devait se faire en principe?
Ben, théoriquement, ce qu'il faudrait, c'est si on décide d'amener du bétail sur Kinshasa, par exemple, c'est de prévoir des camions qui sont destinés au transport exclusif du lot de bétail, en respectant des phases de repos, des phases d'alimentation, des phases d'abreuvement. Il y a quelques années, j'avais dû organiser une expédition depuis le Bandundu vers la ville d'environ 200 bovins. Il se fait que le convoi avait été scindé en plusieurs parties. Le convoi que j'ai supervisé est arrivé à Kinshasa avec un seul mort à bord. Et les autres parties qui n'avaient pas été supervisées, il y avait un pourcentage de décès de 10%. Uniquement parce que les autres parties du convoi n'avaient pas respecté ces phases de repos, d'alimentation et d'abreuvement.
Voilà, il faut s'arrêter. Par exemple, si vous vous êtes arrêté combien de fois en route pour abreuver et nourrir ces bêtes?
Ben, théoriquement, on s'arrête toutes les 2-3 heures pendant une demi-heure, le temps de couper par exemple des herbes, de donner les herbes à manger. Et en général, on s'arrête près d'une rivière de façon à pouvoir puiser de l'eau et distribuer de l'eau.
Alors, mais durant le parcours, ces bêtes vont rester debout. Est-ce qu'il y aura, assez d'espace dans les véhicules pour être en position de repos?
Ah ben là aussi, évidemment, c'est une question de taille du camion et il faut calculer le nombre d'animaux qu'on peut mettre en stabulation libre dans le camion sans qu'il y ait des risques de piétinement et de plaies occasionnées par un trop grand nombre d'animaux sur une surface réduite. Tout ça se calcule au cas par cas. Je peux pas vous donner des chiffres absolus, mais il y a non seulement le sens commun, je dirais, un petit peu de réflexion, et puis surtout, je pense que il faut réfléchir dans le sens, il faut faire voyager ces animaux dans les conditions les plus confortables possibles pour elles.
Voilà, quelles sont les normes à respecter lors du transport des animaux vivants? On en parle avec Dr Pierre Verheghe, médecin vétérinaire. Ce sujet vous intéresse? Composez le 081 890 63 94 pour participer. Donnez-nous des témoignages là où vous êtes. Comment on se fait les transports de bêtes? Et vous avez des témoignages, vous avez des préoccupations, des suggestions. Appelez au 081 890 63 94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Quelles sont les normes à respecter lors du transport des animaux vivants? Alors, nous avons un auditeur qui nous a fait parvenir sa préoccupation. Il dit qu'il ne voit pas l'importance de mettre l'animal dans des meilleures conditions parce que finalement, on va les consommer après quelques temps après.
Bon, mais écoutez, là déjà, il y a une grosse faute de jugement. Une viande d'un animal qui est fatigué et stressé est de moins bonne qualité que une viande d'un animal qui a pu se reposer et qui a pu être abattu dans des conditions les meilleures. Donc je pense qu'il faut que les gens arrêtent de réfléchir en se disant les animaux sont des choses au même titre qu'un fauteuil, une assiette ou une télévision. Ce sont des êtres vivants qui peuvent souffrir, qui peuvent qui ont une sensibilité. Et il faut respecter ça, je crois que c'est un minimum, exactement comme quand on a un animal domestique, quand il est malade, on respecte et on intervient pour soulager sa maladie, ses souffrances, de façon à ce qu'il revienne dans un état de santé confortable.
Nous avons un premier auditeur en ligne, Trésor Lunganga, il nous appelle de Mbujimaï, dans la province du Kasaï-Oriental. Trésor, bonjour.
Bonjour, moi je suis Trésor, je vous parle dans la province du Kasaï-Occidental.
Vous êtes plutôt dans la province du Kasaï-Occidental, à Kananga.
Oui.
On vous écoute,
oui.
Trésor.
Oui, à Kananga, nous voyons des gens qui quittent avec les animaux, des lézards, des vaches, qui viennent ici à Kananga pour abattre ces vaches-là à l'abattoir. Mais les médecins vétérinaires de Kananga ne contrôlent pas tous ces animaux-là. C'est pour cela qu'il y a un peu des difficultés. La population consomme un animal dont on n'a pas fait les contrôles sanitaires, c'est tout cela, nous, il y a un peu de difficulté là. Je voudrais demander à l'invité qui est un peu à insister là-bas.
D'accord, merci. Docteur Pierre Vérec.
Oui, alors bon, justement, c'est une des facettes du métier de médecin vétérinaire, c'est l'inspection des viandes et des denrées alimentaires. Alors, le travail à l'abattoir consiste donc à examiner les carcasses et à dépister des lésions sur les carcasses qui pourraient montrer une pathologie qui interdirait la consommation de la viande par des humains parce qu'il pourrait y avoir transmission de maladies. Ça peut être des maladies parasitaires, ça peut être des maladies bactériennes, par exemple, et pensons à, notamment chez les bovins, au problème de la tuberculose. Il est évident que si l'acte de l'inspection vétérinaire n'est pas fait dans les règles de l'art, il y a un danger potentiel qui peut se manifester. À ce niveau-là, je dirais, c'est un contrôle de la motivation et du sérieux des personnes qui sont responsables de pratiquer cet examen qui doit être mis en question. Il y a toujours une marge entre ce qui est conseillé de façon absolue et ce qui est réalisé en pratique. Mais là, c'est justement le pouvoir public qui doit s'assurer que les médecins vétérinaires en charge de l'inspection des viandes dans les abattoirs accomplissent leur travail correctement.
Voilà, quelles sont les normes à respecter dans le transport des animaux vivants? On retient que si ce transport est mal fait, la bête est stressée, cela aurait un impact sur la qualité de la viande. Il y a aussi des risques, des contaminations, des maladies. On risque d'attraper certaines maladies qui peuvent aller de l'animal à l'homme ou de l'homme vers l'animal. Nous avons en ligne Sylvie Acero qui nous appelle depuis Arou, en province orientale. Sylvie, bonjour.
Bonjour Radio Capi et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, j'ai suivi notre invité. Il a parlé des conséquences des vies à commun, des transports à commun des personnes et avec des animaux. Et puis, il y a des maladies qui peuvent être transmises. Oui. Personnes, des animaux aux personnes, oui. Ainsi de suite. J'ai une expérience où nos frères ont voyagé ensemble avec des animaux, je dirais des porcs,
oui.
À partir d'Arou vers Durba, c'est à centaines de kilomètres, où on a mis ensemble des personnes et des porcs.
Oui.
Donc ces personnes témoignent que si on transporte les animaux à part, on réserve seulement un camion aux animaux, ça coûte vraiment cher. Et puis, la personne qui va vendre cet animal ne gagnera rien. Et c'est bien de combiner comme ça parce que c'est moins coûteux. Alors, comme conséquence, il y a eu un homme qui était piétiné au ventre par les porcs et puis la personne était décédée. Je ne sais pas, pour les problèmes des coûts, pour qu'il sacrifie sa vie. Ou qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si l'invité, en tant que spécialiste du domaine, peut vraiment prodiguer un conseil à cette population vraiment ignorante, mais qu'on ne sait pas les problèmes de maladies qui peuvent être transmises, et puis différencier. Il faut sacrifier sa vie ou bien sacrifier l'argent.
Sylvie, ce monsieur à qui a été piétiné par le porc, et il a été piétiné pendant qu'il dormait, c'est ça?
Oui, pendant qu'il dormait. Le plus souvent, il voyage la nuit. Le plus souvent, c'est la nuit.
D'accord. Alors, le porc l'a piétiné au niveau du ventre et le monsieur est mort plus tard. Merci d'avoir appelé. Serge Makaka, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je salue tous les auditeurs de la radio KT qui nous suivent.
Quelle est votre question, Serge?
Moi, je suis très flatté de ce sujet ici. Et surtout que vous n'oubliez pas que la RDC, l'une de ses parties, est frappée par la fièvre hémorragique d'Ebola. Alors, la question que je vais poser à l'invité est la suivante. Nous allons seulement nous abstenir des animaux déjà morts dans les forêts ou avec ceux qui sont encore vivants. Puisqu'aujourd'hui, nous voyons les bateaux qui descendent de ces provinces-là avec beaucoup de singes, tout consort de singes, de crocodiles, de quoi, la tortue. Alors, avec ces animaux-là, la façon dont ils voyagent ensemble avec le voyageur ne peut au grand jamais avoir de conséquences néfastes sur la santé des humains. Merci beaucoup, c'est ça la question que j'avais à poser.
D'accord, merci. Docteur Pierre.
Alors là, c'est tout le problème des zoonoses potentielles dont les réservoirs sont localisés auprès de la faune sauvage. Alors, effectivement, de façon théorique, je dirais, il faut absolument éviter de capturer des animaux sauvages pour essayer de les garder dans son jardin, donner des petits singes aux enfants et des attitudes pareilles sont extrêmement à risque. On a découvert récemment, chez les singes qui vivent dans nos forêts, une trentaine de virus de la famille des rétrovirus, c'est-à-dire virus du HIV. On ne sait absolument pas encore si ce sont des virus qui sont pathogènes pour les humains ou pas. Alors quand j'entends que des gens achètent des petits singes pour les donner à leurs enfants comme une poupée vivante, ça me fait frémir parce que j'ai l'impression qu'on met vraiment à très haut risque la santé des enfants en leur donnant des animaux qui peuvent être porteurs de maladies encore inconnues. Alors, il est évident aussi que transporter des animaux vivants qui ont été extraits de la forêt, en valeur absolue, ça présente un certain risque, plus ou moins important, plus ou moins connu. La remarque de l'auditeur à propos de la viande d'animaux trouvés morts en forêt, effectivement, c'est un acte extrêmement dangereux que de prélever un tel cadavre, parce que les gens n'ont aucune idée de quoi le singe ou l'animal est mort, et c'est certainement un des points de départ de la fameuse épidémie d'Ebola que nous connaissons maintenant. Mais Ebola n'est qu'une pathologie parmi d'autres, connues ou pas connues. Il faut bien se dire que toutes ces maladies résultent en fait d'un déséquilibre du milieu, de l'environnement, à cause des activités humaines. Donc il faut que l'homme retrouve une certaine sagesse et accepte de préserver et d'éviter d'exploiter à tort et à travers le milieu sauvage qui recèle d'une multitude de choses qu'on ne connaît pas encore et qui peuvent se révéler extrêmement dangereuses, à la limite pour l'ensemble de l'humanité.
D'accord, docteur Pierre, avant de répondre aux autres questions, on va accueillir Giscard Diana de Guémena. Bonjour Giscard.
Bonjour, je dis également à notre invité.
On vous écoute.
Oui, notre invité a dit avant de transporter les animaux, ça demande les examens des services vétérinaires. Maintenant, dans 5 minutes, si les services vétérinaires ne se disposent pas, qu'est-ce qu'on va faire?
Comment? Si les services font quoi?
Si les services vétérinaires ne se disposent pas dans 5 minutes, qu'est-ce qu'on va faire?
Voilà, donc vous voulez dire que, par exemple, à Guémena, il n'y a pas des vétérinaires disponibles pour faire ce travail?
Non, il y en a, mais c'est la question de savoir à nos invités.
D'accord, au cas où il n'y a pas des vétérinaires, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenons d'abord à l'auditrice qui nous a appelé de Harou, voilà, elle a parlé des porcs. Les porcs sont transportés dans les mêmes véhicules avec les humains, et d'après les transporteurs, s'il faut prévoir un véhicule uniquement pour ces animaux, ça va coûter cher, et les vendeurs ne vont pas beaucoup gagner. Docteur Pierre, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela?
Mais je pense que c'est une remarque qui est absolument juste, et d'ailleurs je vais vous dire, dans le monde occidental, il n'y aura jamais un transport de porc qui se fera en compagnie d'un transport de personnes. Ce sont des camions qui sont particulièrement structurés pour le transport de cet animal-là, et effectivement ça représente un coût. Maintenant, effectivement, l'élevage congolais travaille avec des marges
bénéficiaires tellement étroite que il y aurait un sérieux calcul à faire pour vérifier dans quelles conditions un camion pourrait être affrété spécialement pour le transport des porcs. Évidemment, si on doit transporter un porc, ça paraît un petit peu ridicule d'affréter un camion, mais si on doit transporter 100 porcs, peut-être bien qu'à ce moment-là, le jeu en vaut la chandelle.
Bien, et Serge nous parle des conditions des transports des bêtes dans les bateaux et baleinières et autres, c'est souvent déplorable. Alors, de ce côté-là, comment les transports devaient être organisés?
Je pense que justement là, il y a tout un travail de l'administration vétérinaire qui doit se mettre en place, c'est-à-dire non seulement un contrôle de l'état sanitaire des animaux à l'embarquement ou, dans le cas où il n'y a pas de vétérinaire sur place, en tout cas au débarquement, et puis un contrôle de la façon dont les animaux seront stockés pendant le voyage. Et ça dépend évidemment du mode de transport. Transporter en camion, en bateau ou en avion, c'est pas nécessairement les mêmes règles qui doivent s'appliquer.
Bien, quelles sont les normes des transports des animaux vivants? Alias Barouani nous appelle des Kalima et Christian Baya des Kinshasa.
C'est parce que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Quelles sont les normes à respecter lors du transport des animaux vivants? Alias Barouani, vous êtes à Kalima, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Capi.
Quelle est votre question, Alias?
Alias Fortin, journaliste de la radio RTK Kalima. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très inondé de joie de m'avoir accordé la parole. Mais je voulais poser une question à l'invité. Avant tout d'abord, je profite d'abord l'occasion pour dire bonjour à mon directeur.
Monsieur Alias, c'est pas l'occasion pour dire bonjour à votre directeur. Voilà, il n'a même pas posé la question, il voulait tout simplement dire bonjour à son directeur. Hein, c'est pas intéressant. Christian Baya, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Kinshasa, bonjour, quelle est votre question?
Je suis à Kinshasa.
On vous écoute, quelle est la question par rapport à ce thème?
Merci. J'ai bien suivi le médecin vétérinaire lorsqu'il a évoqué que les animaux sont des êtres vivants. Alors je suis d'accord avec lui. Mais ce qui m'a un peu écœuré, c'est le fait qu'il a dit qu'on peut ou que nous devrions voyager dans les mêmes conditions que ou avec ces animaux.
Oui.
Alors, moi, ma question est de savoir, lorsque il faut voyager, par exemple, avec des animaux féroces, quelles sont maintenant des précautions à prendre pour ne pas ou pour éviter qu'il y ait des incidents comme ce que vous aviez évoqué avant?
Ouais. Voilà, comme ce qui était arrivé à Kikwit. Oui. Madame Pacifique Mulowai, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Rudy.
On vous écoute.
Bon, moi je vois que cette situation, l'État, notre État doit faire un effort de tenir ça à fond. Parce que nous vivons avec les enfants, il y a des épidémies. Alors s'il n'y a pas une prise en charge pour ces gens, ce sera un peu difficile. Parce que les gens qui viennent du village cherchent de l'argent. C'est pourquoi ils introduisent en désordre parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut suivre à fond cette situation. Si on mettait pour eux peut-être des bus appropriés aux animaux et les voyageurs et leurs marchandises à part, ce serait mieux.
Voilà. Merci. Madame Pacifique demande à l'État de mettre à la disposition des commerçants des bus appropriés pour le transport des bêtes, des animaux vivants, par exemple du Bandundu ou du Bas-Congo vers Kinshasa ou dans d'autres parties du pays. Docteur Pierre.
Oui. Théoriquement, pour tout transfert d'animaux, même à l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait un certificat vétérinaire qui stipule que l'animal ne présente aucune pathologie et aucun risque de contamination vers l'homme. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il y a tout le problème de la pratique, c'est voir si l'appareil vétérinaire administratif est réparti également partout et s'il effectue son travail par les règles de l'art. Dans les conditions de voyage international, les règles sont beaucoup plus scrupuleusement suivies parce qu'il y a une multitude de contrôles qui se font en cours de route et là, le risque est beaucoup plus faible.
Voilà, les risques plus faibles. Christian est plus faible. Christian Baïa de Kinshasa dit quelles sont les précautions à prendre pour les animaux, pour lorsqu'on voyage avec les animaux sauvages, par exemple, afin d'éviter l'incident qui était arrivé à Kikwit.
Mais d'abord, la première chose, c'est évidemment de placer l'animal dans une cage qui soit solide, qui protège l'animal de l'extérieur, mais qui protège également les personnes destinées qui doivent manipuler les cages d'un coup de griffe ou d'un coup de dent venant de l'intérieur de la cage. Donc, c'est des cages qui doivent être conçues en fonction de l'animal. Je pense que là aussi, les compagnies d'aviation, par exemple, ont des règles standards. Il faut s'adresser auprès d'elles pour savoir quels sont les standards à respecter en fonction de l'animal qui doit être transporté. Encore une fois, transporter une antilope, un lion ou un crocodile, ça demande des règles très différentes parce que ce sont des animaux avec des comportements extrêmement différents et des risques potentiels pour l'environnement humain très différents aussi.
Lambert Kalona nous appelle des Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, excellente journée à la Radio Kati.
Merci, on vous écoute.
Bon, j'ai une petite préoccupation Monsieur Jody, je demande un peu à l'invité, est-ce que le fait de voyager ensemble avec le bête même dedans des avions, il peut y avoir des risques? C'est ça ma petite question, je vous dis vraiment.
Le fait de voyager avec quoi? Avec les animaux?
Oui, oui, dans des avions ensemble, est-ce qu'il peut y avoir des risques?
D'accord. Docteur Pierre.
Bon, ben écoutez, je vais prendre l'exemple du transport des chevaux qui se fait en avion cargo. Très souvent, sur ces vols cargo, il y a un nombre plus ou moins important de passagers qui voyagent couchés sur les marchandises qui sont transportées. Il est évident qu'a priori, le vol cargo est destiné à du transport de marchandises et pas du transport de passagers. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point, en ce qui concerne les chevaux, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des animaux qui sont de grande taille, qui ont beaucoup de force. Il faut les manipuler en connaissance de cause par des gens qui connaissent les chevaux. Et la logistique doit être parfaitement respectée. Si c'est le cas, dans ces conditions-là, le risque pour les passagers d'avoir un mauvais coup est quasiment nul. Le risque d'avoir une maladie contractée à bord lors d'un voyage avec des chevaux, à mon avis, il est nul aussi parce que ces animaux sont contrôlés par des médecins vétérinaires de façon très scrupuleuse et de toute façon dans l'intérêt de l'animal on va pas faire voyager un animal malade. C'est vrai qu'il existe certaines pathologies du cheval qui peuvent être transmissibles à l'homme ou inversement, l'homme peut contaminer le cheval aussi, mais ça demande en général des contacts extrêmement étroits et prolongés. Et en général, les passagers qui voyagent à bord du cargo, ils sont tellement terrorisés par la masse du cheval qu'ils n'osent même pas s'approcher et donc le risque sanitaire pour ces personnes-là est nul. Je dirais que c'est pas tellement dans ces conditions de voyage qu'on risque d'être contaminé, c'est le plus souvent par la consommation de la viande qui permet de transmettre des maladies. Et je dirais ça, c'est pas un problème nouveau. Ebola, évidemment, ramène le problème des zoonoses à la pointe de l'actualité.
Oui.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des règles très, très anciennes, telles que, par exemple, l'interdiction de la consommation de viande de porc dans certaines religions, qui, bien sûr, se reposent sur des textes sacrés, mais qui correspondent, dans le fond, à une réalité épidémiologique. C'est par exemple la transmission de la trichinellose, qui est une maladie parasitaire, qui apparaît chez le porc sous la forme de petits kystes larvaires dans les masses musculaires. Mmh. Quand la viande n'est pas cuite suffisamment, les gens peuvent être contaminés par ce parasite et présenter des maladies extrêmement graves. Donc, les règles bibliques sacrées interdisant la consommation de viande de porc reposaient sur une observation, je dirais, scientifique. Si on mange de la viande de porc, on risque de tomber malade.
D'accord. Alors,
c'était donc très pragmatique.
D'accord.
Tout ça pour dire que le problème des zoonoses n'est pas un problème actuel. C'est un problème de tout temps. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que la pression humaine sur le milieu environnant devient tellement fort que les risques de transmission d'un virus sauvage qui vit au milieu de la forêt à la population humaine accroît considérablement, et c'est donc à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Il faut arrêter d'aller violer la forêt primaire où il y a toute une flore bactérienne et virale qui vit en équilibre dans un milieu naturel.
Voilà, dans certains villages, on voit les villageois transporter des porcs sur leur vélo, donc à l'arrière du vélo, et où soit certains mettent les porcs sur les épaules et l'animal est en train de crier lors du transport. Il est attaché derrière le vélo avec juste quelques fils, et voilà, et il va parcourir des kilomètres avec cette bête qui voyage dans des mauvaises conditions.
Oui, mais demandez aux gens qui font ça s'ils transporteraient leur enfant dans la même condition. Je pense que non. Ils vont s'arranger pour que l'enfant voyage dans des conditions correctes et confortables, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si on ne respecte pas un petit peu les conditions dans lesquelles on fait voyager les animaux, d'abord, je dirais que c'est un manque de respect par rapport au principe universel de la vie et de la beauté de ce que c'est que la vie. Mais en plus de ça, cet animal risque d'être stressé, il risque de mourir de stress, et à ce moment-là, on aura perdu un porc qui aurait pu être vendu dans des conditions correctes à un bon prix.
Bien, docteur Pierre Verreg, médecin vétérinaire, merci et à la prochaine.
Une bonne journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.